Nous sommes le mardi 5 mars et nous retrouvons Thomas Cluzel pour le journal de la rédaction. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
C'est traditionnellement le grand jour pour la désignation des candidats à la présidentielle américaine.
Oui, sauf que cette année, Joe Biden comme Donald Trump écrase tellement la concurrence, chacun dans leur camp, que ce Super Tuesday ne promet a priori aucun suspense, si ce n'est peut-être de savoir si Nikki Haley sera irrémédiablement distancée dès aujourd'hui dans la course à l'investiture pour le Parti républicain. Nous serons au Texas dès le début de ce journal. Dans l'enfer de la guerre au Proche-Orient, on reviendra sur la dernière passe d'armes entre Israël d'un côté et l'ONU de l'autre, qui échange de multiples accusations. On parlera également situation économique de la Chine à l'occasion de la réunion annuelle du Parlement avec notre invité aujourd'hui, l'économiste Marie-Françoise Renard. Et puis l'actualité en France, et notamment la hausse spectaculaire annoncée ce matin du coût de construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR. Plus 30%, c'est près de 16 milliards d'euros supplémentaires. Donald Trump a de quoi pavoiser. Sans surprise, hier, la Cour suprême américaine à majorité conservatrice a décidé de ne pas invalider la candidature de l'ex-président, malgré ses tentatives insurrectionnelles de rester au pouvoir après sa défaite de 2020. En clair, les juges lui ont très largement ouvert la voie vers la Maison-Blanche, et ce, quand bien même la plus haute juridiction des États-Unis doit encore statuer sur la demande d'immunité du milliardaire qui fait face à 4 inculpations au pénal. Une décision cruciale donc, et qui intervient, qui plus est, très opportunément à la veille d'un jour pas comme les autres, le Super Tuesday. Ce mardi, les électeurs de 16 États vont se rendre aux urnes pour choisir leur prétendant démocrate ou républicain à l'élection de novembre. Alors pour Joe Biden, qui ne fait face à aucune opposition sérieuse, malgré les critiques récurrentes exprimées notamment sur son âge, ce scrutin relève tout au plus de la formalité. Quant à Donald Trump, donné toujours favori malgré ses ennuis judiciaires, cette journée devrait vraisemblablement lui permettre d'évincer définitivement la dernière de ses adversaires à lui barrer encore la route, Nikki Haley. Pour autant, l'ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies n'a pas dit son dernier mot, comme l'a constaté notre envoyée spéciale Sarah Mansoura lors de son dernier meeting de campagne près de Houston, au Texas. Reportage.
Arrivée comme une rockstar, Nikki Haley n'a rien perdu de sa pugnacité. Sur la dette, la politique étrangère et bien sûr l'immigration, elle charge le camp Biden, mais l'essentiel des attaques vise son grand rival. Pancarte à la main, Ken exulte.
J'admire le fait qu'elle se batte encore, on ne doit pas se baser sur les sondages pour décider, et la plupart du pays n'a pas encore voté. Comme Nikki l'a dit, on a besoin d'une alternative et elle ferait une excellente présidente.
Quelques heures après une première primaire remportée, ses fans veulent y croire, Laura repense aux primaires de 2016.
Tout le monde pensait que Bernie Sanders allait gagner jusqu'au Super Tuesday. Or, les gens sont allés voter Biden. Donc, j'ai de l'espoir. Les fans de Trump sont très présents, font du bruit, sont détestables, mais on est plus nombreux.
Fernando, lui, veut voir Haley se battre contre Trump jusqu'en novembre.
Elle reste une épine dans son pied, et j'espère que si elle perd l'investiture, elle candidatera comme indépendante. Même si elle ne remporte pas de délégués, elle reste dans la course, elle a des financements, et elle fera de sa vie un enfer, jusqu'à la fin.
Rester une alternative crédible à Biden et à Trump, c'est la mission que s'est donnée Nikki Haley. En concluant, nous pouvons faire mieux qu'un duel d'octogénaire.
Un reportage au Texas signé Sarah Mansoura.
Voilà bientôt 5 mois que la guerre a repris entre Israël et le Hamas.
Et au sol, comme dans les airs, rien ne permet encore d'imaginer à quoi pourrait ressembler le jour d'après, autrement qu'à celui de la veille. Du côté des médiateurs, cette fois-ci, l'impression qui domine encore ce matin reste là aussi assez largement celle d'un cycle sans fin, où quand Égyptiens, Américains et Qataris tentent toujours d'arracher un compromis aux deux camps afin d'obtenir un accord de trêve avant le début du mois sacré musulman du Ramadan. En revanche, la tragédie annoncée se précise, elle, chaque jour un peu plus. La famine est quasiment inévitable pour l'immense majorité de la population palestinienne, ont prévenu hier les Nations Unies. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Une situation d'autant plus catastrophique, Christian, qu'elle est désormais aggravée depuis hier par de nouvelles tensions entre l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens d'un côté, Israël de l'autre.
Oui, Thomas, entre Israël et l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens, le torchon brûle. L'État hébreu accuse 12 employés de l'UNRWA d'être impliqués impliquée dans les attaques du 7 octobre, sans pour autant avoir partagé les éléments d'enquête avec l'ONU, qui s'est séparée de ses personnels accusés et qui a lancé une investigation en interne. En termes d'image et de crédibilité, le coup est rude pour l'UNRWA, créée en 1949, après la première guerre israélo-arabe. Une quinzaine d'États ont déjà suspendu leur financement, comme les États-Unis, le Canada ou le Royaume-Uni. D'autres, comme la France, attendent les conclusions de l'enquête de l'ONU. En tout cas, l'UNRWA se défend face aux accusations israéliennes et dénonce une campagne délibérée et concertée pour saper ses opérations dans la bande de Gaza, selon son directeur Philippe Lazzarini. Hasard du calendrier ou pas, un rapport onusien accuse cette fois les autorités israéliennes d'avoir commis des actes de torture et infligé des mauvais traitements à certains employés de l'UNRWA, soupçonnés par l'État hébreu d'être impliqués dans les attaques du 7 octobre. Alors au-delà de ces passes d'armes diplomatiques, ce qui est en jeu, c'est la survie des réfugiés palestiniens de Gaza. Le démantèlement de l'UNRWA, réclamé par Israël, conduirait au sacrifice d'une génération entière d'enfants et à semer les graines de futurs conflits. Met en garde Philippe Lazzarini, le patron de l'UNRWA.
Merci Christian Chéneau. Si l'an dernier, la grand-messe de la session annuelle du Parlement chinois avait été consacrée à l'octroi d'un troisième mandat inédit au président Xi Jinping cette année, toute la question pourrait se résumer ainsi: comment relancer la deuxième économie mondiale? Ce matin, Pékin a annoncé viser une croissance d'environ 5% en 2024, de quoi faire rêver sans doute bon nombre de pays à travers la planète, sauf que pour l'empire du milieu, c'est là l'un de ses objectifs les plus modestes ou les moins ambitieux, c'est selon depuis des décennies. Et il pourrait même être difficile à atteindre, tant le pays peine à se relancer après trois longues années d'isolement liées au Covid. À cela, on pourrait encore ajouter la crise de l'immobilier, un chômage record chez les jeunes et au-delà, le ralentissement mondial qui affecte tout particulièrement la demande en produits chinois. Or, malgré cette morosité, bien les autorités ont choisi de ne pas se lancer dans un plan de relance d'envergure. Pourquoi? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Marie-Françoise Renard, économiste, professeure à l'université de Clermont-Auvergne, autrice notamment d'un ouvrage intitulé « La Chine dans l'économie mondiale » publié aux presses universitaires Blaise Pascal. Bonjour madame.
Bonjour.
S'agissant peut-être pour commencer de cet objectif donc de croissance pour l'année à venir, 5%, comment l'interprétez-vous ?
Alors c'est le même objectif que l'année dernière. Bien sûr, il faut oublier les objectifs de croissance à 7, 8, 9% qu'on a connus dans les années précédentes. La Chine n'est plus dans une logique de rattrapage et le secteur immobilier n'est plus là pour soutenir de façon artificielle la croissance. Néanmoins, il s'agit d'un chiffre qu'il va être difficile à atteindre. Il sera difficile à atteindre parce que l'année dernière, on se comparait à l'année 2022 qui avait été une année très pénalisée par le Covid. Donc même si ce chiffre obtenu de 5,1% en 2023 est sans doute surestimé, il y a eu une reprise évidente par rapport à la période du Covid. Aujourd'hui, les choses sont plus difficiles. La Chine doit poursuivre l'assainissement du secteur immobilier. Elle a des stocks de la surproduction et donc on est dans une période de déflation, il n'y a pas assez de demandes, l'activité a ralenti, il y a un problème de confiance, les consommateurs hésitent à avoir confiance dans la reprise, les investisseurs étrangers hésitent à avoir confiance dans la capacité du gouvernement à laisser fonctionner le marché. Et donc la situation aujourd'hui est difficile et d'ailleurs le Premier ministre a admis que la reprise économique était difficile dans un contexte international qui est défavorable, comme vous l'avez rappelé. Donc c'est un objectif qui n'est peut-être pas très ambitieux par rapport aux années antérieures un peu lointaines, mais qui néanmoins sera un peu difficile à atteindre.
On pourrait penser que ce contexte général devrait favoriser l'adoption de mesures d'ampleur pour relancer donc l'économie. Or le pouvoir semble hésiter encore sur le comportement à adopter. Quelles options s'offrent aux responsables chinois? Quel levier pourrait-il activer pour susciter cette relance?
Alors effectivement, le gouvernement, on a l'impression que le gouvernement cherche évidemment à sortir de la crise, mais on a l'impression qu'il n'a pas vraiment identifié comment. Il est clair qu'il n'y aura pas un plan de grande ampleur de soutien à la consommation, par exemple. Ça, il n'y a pas de mesures qui sont prévues dans ce sens-là. Le gouvernement a annoncé, le Premier ministre a annoncé pas mal de choses, mais ce sont des annonces, on pourrait dire, un peu marginales, qui ne sont pas le plan de stimulation qu'on a connu, par exemple, en 2008. Alors, la principale question, c'était de...
Madame Renard, est-ce que vous nous entendez encore? Je pense que nous avons perdu la
liaison. Visiblement, ce n'est pas le cas.
Nous vous avons retrouvé, oui, nous vous écoutons.
Visiblement, il n'y aura pas un grand plan de soutien à la consommation. Et les mesures qui sont annoncées sont des mesures qui sont assez vagues, assez floues et qui sont, on ne peut pas dire marginales, mais qui ne sont pas en tout cas un grand plan de stimulation. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement veut soutenir l'emploi. Et il a annoncé des mesures, des chiffres en tout cas, pour limiter le chômage. Il veut...
Alors, est-ce que nous vous avons à nouveau perdu ?
Je pense
que
nous avons... Comme il a commencé à le faire...
Je vais me permettre de vous couper, vous poser une dernière question. Peut-être on a une liaison effectivement un peu difficile. Outre l'économie, donc l'autre thématique évidemment sur laquelle le Parlement devrait insister pendant cette session, c'est la sécurité nationale. Est-ce que la mise en scène de l'unité du pays est un moyen possible de restaurer la confiance sur le plan économique ?
Alors, la mise en scène de l'unité du pays n'est peut-être pas extrêmement convaincante pour la population qui peut avoir, qui sans remettre en cause le pouvoir de Xi Jinping, a une certaine réserve vis-à-vis du nationalisme, est beaucoup plus favorable au marché, etc. Et c'est certainement des mesures économiques qui sont le plus à même de rassurer la population ou de rassurer les investisseurs plutôt que ce discours nationaliste, etc., sur l'unité de la Chine, qui est un discours qui s'adresse aux pays étrangers, en fait, et qui touche certainement beaucoup moins la population des Chinois, plus sensible aux mesures économiques, qui vont jouer directement sur leur niveau de vie.
Merci Marie-Françoise Renard, économiste et professeure, je le rappelle, à l'Université de Clermont-Auvergne d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Et c'est donc en pleine session annuelle du Parlement chinois qu'un nouvel accrochage a eu lieu ce matin entre les forces navales de Pékin et celles de Manille.
Oui, deux collisions qui ont fait 4 blessés en mer de Chine méridionale, théâtre régulier d'incidents, un espace maritime dont Pékin revendique aujourd'hui la quasi-totalité, y compris donc les eaux et certaines îles proches des côtes de plusieurs pays voisins, dont les Philippines. Alors la détérioration des relations entre Pékin et Manille n'est pas nouvelle, elles se sont aggravées depuis l'élection du président Marcos qui a décidé de renforcer ses liens notamment avec les États-Unis. Or hier, en marge d'un sommet de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, le chef d'État avait justement tenu à afficher à nouveau sa fermeté face à la Chine. C'est une correspondance signée Juliette Pietraszewski.
Il n'aura fallu que très peu de temps pour que les images de la collision entre les deux navires soient diffusées sur les réseaux sociaux. Derrière ces publications, le porte-parole des gardes-côtes philippins, Jay Tariela, qui accuse ouvertement les gardes-côtes chinois. Leurs actions irresponsables et illégales ont entraîné la collision, a-t-il écrit. De son côté, Pékin accuse les Philippins d'avoir percuté délibérément des navires chinois. Ce mardi matin, deux bateaux de Manille participaient à une mission de ravitaillement de soldats. Des soldats présents à bord d'un bâtiment de guerre ancré près du banc Second Thomas, un atoll dans l'archipel des îles Spratly. En 1999, Manille y avait fait échouer un vieux bateau américain, le Sierra Madre, pour empêcher Pékin de se saisir de l'atoll en question. Pékin, qui revendique en effet la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Un sujet de discorde avec beaucoup de pays dans la région qui appellent au respect de leur zone économique exclusive. En 2016, la Chine avait par ailleurs rejeté une décision de La Haye concernant ses revendications. À Manille, et depuis son élection, le président Ferdinand Marcos Jr. s'est engagé dans une politique de rapprochement avec les Américains. Présent en Australie à l'occasion d'un forum ces derniers jours, il s'est par ailleurs exprimé sur les tensions désormais habituelles en mer de Chine méridionale.
Les Philippines se retrouvent désormais en première ligne contre des actions qui compromettent la paix régionale, érodent la stabilité régionale et menacent le succès régional. Je ne permettrai aucune tentative d'une quelconque puissance étrangère de prendre ne serait-ce qu'un seul centimètre carré de notre territoire souverain.
Une position qui marque un virage avec son prédécesseur Rodrigo Duterte, qui s'était rapproché de la Chine.
Sur fond de guerre en Ukraine, Emmanuel Macron mettra une nouvelle fois à l'épreuve aujourd'hui sa stature de chef d'État européen désireux d'imposer son leadership dans le soutien à Kiev et le bras de fer avec Moscou. Le président est arrivé à Prague où il doit présenter son soutien à une initiative tchèque en vue d'acheter des munitions hors UE pour ensuite les livrer sur le champ de bataille. Paris a annoncé la semaine dernière participer à cette initiative mais sans chiffrer pour l'instant le montant de sa contribution.
La guerre en Ukraine toujours est encore à l'origine d'une crise d'ampleur entre Berlin et Moscou.
Oui, un enregistrement d'une conversation confidentielle entre officiers de haut rang de l'armée allemande a été diffusé vendredi dernier sur les réseaux sociaux. Depuis la Russie, il y est notamment question de l'hypothèse de la livraison à Kiev de missiles longue portée de fabrication allemande. Dès samedi, Berlin a confirmé que l'enregistrement était bien authentique, sauf qu'officiellement, le chancelier Olaf Scholz se refuse à livrer de telles armes en arguant d'un risque d'escalade du conflit. Toujours est-il qu'en Allemagne, l'affaire fait à présent grand bruit, en particulier parce qu'elle révèle de graves failles dans la sécurité de son armée accusée d'amateurisme. Réponse ce matin du ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. La fuite serait due à une erreur individuelle. Les précisions depuis Berlin de Sébastien Baer.
Pour le ministre allemand de la Défense, la sécurité et la fiabilité des systèmes de communication de la Bundeswehr ne sont pas en cause. Boris Pistorius évoque plutôt une erreur individuelle.
Tous les participants n'ont pas respecté la procédure sécurisée. En l'état actuel des connaissances, on suppose que la fuite de données s'est produite chez un participant à Singapour. Il était connecté via un canal non autorisé, donc quasiment via une connexion ouverte. Un tel événement est une aubaine pour les autorités russes. C'était une erreur, une grave erreur qui n'aurait pas dû se produire.
Le ministre annonce l'ouverture de plusieurs enquêtes pour éclaircir les éventuelles négligences, mais Boris Pistorius relativise aussi l'incident.
Je ne connais aucun allié qui n'ait pas eu à déplorer au moins un incident de cette nature au cours des 20 dernières années. Tous ceux qui ont affaire à de tels contenus savent que le risque existe toujours et qu'il augmente encore en cas de négligence. Nous ne laisserons pas cette attaque hybride en provenance de Russie nous faire perdre notre sang-froid et nous déstabiliser.
La Russie désignée comme responsable par l'Allemagne de la diffusion de ces échanges confidentiels, le ministre de la Défense accuse Moscou de mener une guerre de l'information et assure que l'Allemagne, malgré l'incident, conserve toute la confiance de ses partenaires de l'OTAN.
Vous écoutez France Culture, il est midi 46, c'est la suite du journal de Thomas Cluzel.
Roman Polanski ne sera pas présent tout à l'heure à l'ouverture de l'audience de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Ses avocats le représenteront. Le cinéaste franco-polonais doit être jugé pour diffamation après avoir qualifié d'odieux mensonges les accusations d'agression sexuelle lancées contre lui par l'actrice britannique Charlotte Lewis. L'enquête se poursuit au lendemain de l'effondrement d'une partie d'un viaduc en construction sur le chantier de la troisième ligne du métro de Toulouse. En fin d'après-midi, une partie de l'ouvrage en chantier a cédé, faisant un mort et trois blessés. Le coût prévisionnel du programme de construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR, commandés par l'État à l'électricien EDF, est désormais évalué à 67,4 milliards. C'est 30% de plus que le budget initial. Véronique Reberotte, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vrai que les coûts de construction de réacteurs sont assez souvent plus importants que prévu, à l'image d'ailleurs des chantiers d'EDF à Flamanville en Normandie ou bien Hinkley Point en Angleterre. En l'occurrence, c'est tout de même près de 16 milliards de plus. Qu'est-ce qui explique, Véronique, une telle différence de ces chiffres?
D'abord, vous avez raison, c'est une des caractéristiques du nucléaire français ces dernières années. Il n'est pas rare de voir les coûts de construction des EPR, première génération, être plus importants qu'annoncés initialement. Alors, vous avez parlé de l'EPR de Flamanville avec une mise en service, si tout va bien pour cette année 2024. Et selon la Cour des comptes, l'EPR de Flamanville aura coûté 6 fois plus cher que prévu au moment de son lancement en 2007, soit près de 20 milliards d'euros au lieu des 3,3 milliards d'euros initialement prévus. Cette fois, avant même donc le début des travaux, je rappelle les chiffres, le coût prévisionnel des 6 premiers donc futurs EPR grimpe de 30% et passe donc de 51,7 milliards à 67,4 milliards, près de 16 milliards de plus pour une mise en service du premier EPR en 2035. Selon le journal Les Échos, EDF donne 2 raisons principales à cette augmentation des coûts. En premier lieu, une augmentation des coûts d'ingénierie. L'opérateur EDF avait annoncé d'ailleurs il y a quelques jours vouloir prendre 9 mois de plus que prévu pour finaliser les plans de l'EPR. Et puis, deuxième explication évoquée par EDF, la hausse des coûts de construction. Le journal Les Échos explique que c'est cette hausse qui pèse le plus dans la révision, donc à la hausse du coût initial. Il vient s'ajouter en plus à de nouvelles provisions pour risques et aléas évaluées à environ 5 milliards d'euros. EDF n'exclut pas que ce nouveau chiffrage puisse évoluer à l'avenir, alors pourquoi pas à la baisse. EDF explique avoir lancé un plan de compétitivité sur le programme d'achat des 3 paires d'EPR et la signature des premiers marchés.
Merci Véronique Robert. Une nouvelle année record pour Thales. Le groupe de défense et de technologie a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de 18,4 milliards d'euros, en hausse de près de 5%, résultat opérationnel supérieur de 2 milliards d'euros. C'est une première depuis 2019. Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs le groupe au plus haut ce matin à la Bourse de Paris de supprimer et redéployer 1300 postes, dont 1000 dans l'Hexagone. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi couvert et pluvieux sur une large partie du territoire. En revanche, l'arc méditerranéen profitera de belles éclaircies. Quant aux températures, elles seront comprises entre 7 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.